Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour à toutes et à tous et encore merci de nous accueillir sur cette émission. Ça va faire bientôt 5 ans qu'elle existe, on arrive à 200 émissions qui ont été faites. C'est quand même assez important sur ce monde de la qualité de l'air et il faut vraiment en parler, il faut pas l'oublier, ça ne se voit pas. Notre réflexe de respirer, il est un réflexe, il est une habitude, on s'en rend pas bien compte. Et tout ça, c'est de l'invisible qu'il faut rendre visible. J'enfonce des portes ouvertes sur tous ces petits termes qu'on retrouve chez les spécialistes de la qualité de l'air notamment, mais ils sont plus qu'importants. Et cet air, en fait, il circule énormément, vous vous en doutez, à l'image d'un volcan qui peut exploser et qui va traîner ses cendres un petit peu partout. On a une actualité qui est un peu moins heureuse en ce moment, il faut savoir, au Nord-Amérique et notamment au Canada, il y a des grands feux, des très grands feux. On en a vécu en France l'année dernière, mais là, ça, c'est sans aucune commune mesure, c'est vraiment important. Et ce matin, hein, l'émission est enregistrée, mais ce matin, nous sommes au mois de juin, et il y a New York qui est sous un ciel tellement chargé de particules et qui devient une des villes qui devient la ville la plus polluée au monde ponctuellement. Et en fait, on n'arrive même plus depuis Manhattan à voir la Statue de la Liberté. L'Empire State Building, on le voit même plus jusqu'en haut. Enfin, c'est quelque chose d'assez important et on pense à tous ceux qui sont dans ce, ils appellent ça du brouillard, c'est pas du brouillard, hein, c'est vraiment des particules nocives auxquelles il faut se préserver et on espère que tout ça sera redilué rapidement puisque l'air aussi, pour qu'on respire bien chez soi, c'est de bien le diluer. Et notamment, on le voit, l'États-Unis, un grand pays, un courant d'air qui arrive, ça stagne, les poussières restent. On a vu celles des Landes qui sont montées sur Paris puis qui sont restées aussi à un moment donné. De même, les centrales à charbon allemandes qui, l'hiver, par le vent d'Est, amènent de la pollution sur Paris. On est tributaires tous les uns des autres. Eh bien là, on va se retrouver à parler et d'accueillir avec grand plaisir sur ce plateau Valérie Le Prince du CEREMA. Bonjour Valérie, comment
Bonjour,
ça va
Nicolas. Très bien, merci.
Bon, vous venez
merci
de Lyon.
Oui.
C'est juste à côté,
c'est facile.
Hein, c'est assez facile.
C'est facile.
Voilà. Mais par contre, vous venez de beaucoup plus loin que Lyon, puisqu'on parle un petit peu des pays, de l'outre-Atlantique. Vous allez encore plus loin, puisque vous arrivez il y a quelques jours du Japon. Et au Japon, justement, cette qualité de l'air, juste avant qu'on démarre sur le CEREMA, parce qu'on a beaucoup de choses à évoquer avec vous, cette qualité de l'air au Japon, ils la prennent en compte comment ? Ils la ressentent comment ? Et surtout, il y a une histoire géographique de ce pays qui fait qu'il y a peut-être un peu moins de contraintes qu'ailleurs. Dites-nous.
Alors effectivement, j'étais au Japon pour parler qualité d'air, performance énergétique, ventilation et tous ces sujets-là. Ils ont la chance au Japon d'avoir globalement une bonne qualité d'air extérieure. Hein. Ils ont beaucoup de voitures électriques et dans une grosse métropole comme Tokyo, c'est une des grosses métropoles avec la qualité d'air, des meilleures qualités d'air. Notamment grâce au fait qu'ils soient proches de l'océan et qu'ils aient beaucoup de brassage.
C'est un pays qui est très fin, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, les courants marins qui se transforment en courants d'air vont permettre aussi de chasser et de diluer rapidement au-dessus du pays.
Voilà.
Très bien. Et donc, au Japon, la qualité de l'air, ils ne s'en préoccupent pas plus que ça.
Ils s'en préoccupent de la qualité d'air intérieur aussi, avec les polluants qui peuvent être émis à l'intérieur des bâtiments. Et ils se préoccupent bien de faire une réglementation qui soit à la fois sur la performance énergétique en été, en hiver, tout en maintenant une qualité d'environnement intérieur qui soit bonne. Donc dans qualité d'environnement intérieur, on inclut tout, hein, pas uniquement l'air, l'éclairage, l'acoustique, le confort thermique. Tout est dedans.
Parce que tous ces éléments-là, fondamentaux, sont impactants sur notre santé. Si on a trop de lumière, on n'est pas bien. Si on n'a pas de lumière, on va déprimer. Et puis, c'est pas bien non plus parce que notre corps réclame cette vitamine D. Et puis, au niveau du bruit, ça peut être vite insupportable et puis créer aussi d'autres gènes et puis un impact sur, je dirais, notre bien-être qui est
santé.
sur la durée et puis une santé qui se dégrade aussi rapidement. Oh, on est positif ce matin. On va bien, allez bien.
On va très bien.
Ah.
Et en Europe, on va vers ça aussi, donc c'est une très bonne chose.
Alors, justement, avant de parler de la ventilation en Europe, parce que vous êtes là pour ça, hein, vous allez nous parler de ce qu'est le CEREMA. Et ça, c'est un organisme quand même incontournable, on peut le dire, qui est peuplé, je connais plusieurs personnes au CEREMA, qui est peuplé de personnes ultra compétentes, ultra sachante aussi, et qui n'hésite pas aussi pour venir facilement échanger et nous expliquer et apporter aussi cet échange pour réfléchir ensemble ou récupérer les bonnes pratiques ou toutes les expériences positives qui peuvent être données. Qu'est-ce que le CEREMA et qui est Valérie Leprince finalement ?
Alors, en deux mots, le CEREMA, ça va être long. On est un bureau d'études.
C'est pas de mots, ça.
Non, toujours long. On est un bureau d'études publiques. On est avant tout au service des collectivités locales. L'objectif du CEREMA, c'est d'aider les collectivités locales, les mairies, les régions, les départements à mettre en place les politiques publiques. Donc, le gros de l'action du CEREMA, il est plutôt sur le transport, sur les aménagements, sur les infrastructures, vraiment pour permettre aux collectivités locales de mettre en œuvre les politiques publiques. Et il y a toute une partie, quand même, des équipes qui travaillent sur la partie bâtiment, et notamment là, quand il s'agit d'aider les collectivités locales, c'est par exemple la directive qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Toutes ces mairies qui vont devoir surveiller la qualité d'air dans leurs écoles, comment elles vont faire, comment elles vont mettre ça en place, le CEREMA, on est là pour les aider et pour les assister techniquement sur ces sujets-là.
Et qu'une surveillance de la qualité de l'air ou un accompagnement derrière pour aussi aider à trouver les solutions ? Parce qu'à un moment donné, ça ne suffit pas de se dire on ne brasse pas assez d'air neuf, mais à un moment donné, on le fait comment ?
Alors, les collectivités locales vont effectivement devoir mettre en place un plan d'action s'il n'y a pas assez de renouvellement d'air dans les écoles. Et ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qu'on veut mettre en place, de pouvoir les assister sur cette mise en place du plan d'action pour améliorer vraiment la qualité d'air dans les écoles, la qualité d'air respirée par les enfants.
Vraiment. Et d'ailleurs, pour ça, vous avez travaillé sur le protocole promouvant tertiaire.
Ça, c'est pour l'inspection des systèmes de ventilation, qui vont permettre ensuite d'améliorer les choses en constatant que parfois, il n'y a pas de système de ventilation ou quand il y en a un, il ne répond pas aux objectifs.
On a de la ventilation mécanique que dans 15% des écoles. C'est déjà un élément important et on dit on va mesurer. Et c'est vrai qu'on en parlait avec notre invité précédent, M. Krogonok, justement de Trécopat, qui construit des maisons. À un moment donné, on a des systèmes aussi qui sont déjà couplé directement avec des détecteurs de polluants, notamment le CO2 et autres. Et en fait, nos solutions, on les a. Maintenant, il va falloir qu'on mette tout ça bien en œuvre, de la bonne manière, et avec des finances publiques qui peuvent être aussi un petit peu malmenées. Donc, il va falloir être agile, on va pouvoir dire ça comme ça.
Il va falloir trouver des solutions efficaces et à un coût modéré pour pouvoir les diffuser à grande échelle sur tout le territoire, effectivement.
Alors, qui est Valérie Leprince ?
Donc, l'objectif du CEREMA, c'est donc d'être au service des collectivités locales, mais donc de faire le lien avec les politiques publiques. Donc nous, on participe aussi à l'élaboration des réglementations nationales, puisque justement on a cette expérience terrain. Et moi en particulier, mes missions sont plus au niveau élaboration des réglementations nationales, donc notamment avec le groupe de travail ESSOC, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, la RE2020, quand on a mis en place l'exigence d'inspection des systèmes de ventilation, et aussi les normalisations au niveau européen pour faire en sorte que tout ce qui est décidé au niveau européen en termes de normalisation soit cohérent avec ce qu'on met en place en France, parce qu'il ne s'agirait pas de mettre en place une réglementation et ensuite d'avoir une norme européenne qui nous dise de faire le contraire ou du moins des choses pas cohérentes. Donc mes missions sont là.
Il est évident de ne pas s'éparpiller.
Il ne faut pas s'éparpiller.
C'est ça. Il faut diluer l'air, mais il ne faut pas s'éparpiller.
Il faut diluer l'air, mais le diluer partout pareil.
Bon, très bien. Alors, justement, cette ventilation, on est allé faire un tour en Amérique, on est allé faire un tour du côté de l'Asie. Revenons un petit peu plus sur l'Europe. Alors, au niveau de l'Europe, il y a des évolutions, il y a des éléments qui sont, je dirais, sur la planche de travail et pour lesquels il faut avancer. Et notamment, vous allez nous décrypter ça, la nouvelle directive, EPBD.
Le PBD.
Voilà, partez avec ça, chers auditrices, chers auditeurs. Maintenant, à vous, avez 2 heures pour trouver. On est bientôt dans le bac philo.
PBD, c'est en anglais en plus.
Ah, c'est en anglais. Oula, allez-y.
Performance, on vous écoute. La directive sur la performance énergétique des bâtiments, effectivement. Elle est actuellement en révision au niveau européen. Et il y a cette volonté dans la future directive de ne plus parler uniquement de performance énergétique, mais de parler de performance énergétique et de qualité d'environnement intérieur. C'est-à-dire que cette nouvelle directive, alors elle est encore en discussion, on a une version publiée par le Parlement qui est actée, mais il faut encore que ce soit acté au niveau commission et conseil, mais l'idée c'est que quand on construit un bâtiment, on ne le construise pas uniquement pour la performance énergétique, mais de respecter aussi des critères de qualité d'environnement intérieur.
J'ai le droit de dire enfin. Enfin, parce que ça fait même 40 ans qu'on attend ça.
Mais oui, parce qu'un bâtiment performant énergétiquement, c'est facile. On va acheter une tente de seconde, on la jette dans le jardin et elle est extrêmement performante énergétiquement. Après, d'un point de vue qualité d'environnement intérieur, ça peut être discutable à certains moments de l'année, malheureusement. Donc là, l'idée, voilà, c'est qu'il y ait d'imposer aux États membres de mettre en place des critères de qualité d'environnement intérieur, acoustique, accès à l'éclairage, l'éclairage naturel, qualité d'air, évidemment. Acoustique, éclairage, qualité d'air et température, forcément. Et donc, de mettre en place ces critères et surtout de les vérifier à la réception. Donc, c'est-à-dire de faire un vrai commissionnement, une vraie réception qui va vérifier que les critères de qualité d'environnement intérieur sont bien respectés quand le bâtiment est construit.
Donc, finalement, des obligations de résultat.
Des obligations de résultat.
Ça, c'est bien.
Tout à fait.
Mais c'est vraiment bien, ça.
C'est formidable.
Moi, j'applaudis, j'ai que demain, mais j'en aurais dit, j'applaudirai dès demain. Parce que, enfin, on va vers de l'engagement.
On va vers de l'engagement et on va vers de la réception. Mais derrière, ça engendre tout un tas de complexités. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée est bonne. Mais ensuite, la question est qu'est-ce que sont les critères et comment on les vérifie.
Comment on les vérifie et à quel coût.
Donc,
Parce que ça peut coûter cher au départ, mais on sait que sur la durée, si on le montre bien avec la pédagogie, je pense qu'on est avec ça. Si quelque chose est très bien au départ et bien pensé, c'est pas mes amis des compagnons du devoir qui vont me dire, ou les charpentiers qui sont en train de refaire la toiture de Notre-Dame, ils ont fait les plans, ils ont découpé les bois, et ils ont monté à blanc, ce qu'on appelle les montées à blanc au niveau du sol, et après ils redémontent et ils le reposent pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, mais après, ils ne reviennent plus. Hein, la dernière charpente de Notre-Dame, c'est 850 ans quand même. Donc, peut-être que nos maisons ne vont peut-être pas aller jusque-là, mais c'est l'idée de bien faire au départ pour après être, je dirais, dans de la qualité et à tout point de vue.
La qualité peut coûter plus cher au départ, mais coûte moins cher à la fin.
Complètement.
Je partage.
Cette directive, il n'y a pas que, il y a aussi la révision d'un texte important qui est fondateur, hein, surtout autant la qualité de l'air, la ventilation et autres, qui est, allez, on repart un petit peu dans du décryptage, chers auditrices, chers auditeurs, le N16-798-1.
-1, très important le tiret.
Très important le tiret 1. Alors, c'est quoi et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va parler aussi de paramètres QAI sur cette norme.
Voilà, donc ça c'est la norme qui définit ce que sont les paramètres de qualité d'air et comment concevoir un système, selon quels paramètres. Un système de ventilation, évidemment, on est toujours dans la ventilation. Et alors, la difficulté, c'est qu'en Europe, on a différents critères pour dire, enfin, différents objectifs pour la ventilation. En France, on a notre arrêté de 82 qui a été conçu clairement pour dire il ne faut pas qu'il y ait de développement d'humidité, il ne faut pas qu'il y ait de développement de moisissure dans nos bâtiments. Donc, on met nos exigences pour qu'il n'y ait pas de développement de moisissure. La ventilation, elle est là pour éviter ce développement de moisissure.
Et pour consommer peu. Il y avait le parallèle.
Sans trop consommer. Limiter le développement de moisissures sans trop consommer. C'est ça l'idée de l'arrêté de 82 initialement. Donc il y a quand même plus de 40 ans. On était très précurseurs à l'époque en Europe d'avoir une ventilation mécanique au début des années 80. La plupart des pays européens ont commencé à en mettre dans le logement qu'au début des années 2000. Ensuite, il y a d'autres pays qui s'inquiètent plus dans leur réglementation des aspects santé. Et donc, à ce moment-là, ces pays-là, ils vont s'intéresser aux particules fines. Et plutôt que de mettre en place des systèmes de ventilation, ils vont plutôt essayer de mettre de l'épuration d'air, de filtrer au maximum pour limiter au maximum les particules fines.
Mais si on n'a pas d'air neuf, on fait comment? Parce qu'on a besoin de dilution quand même, quelque part.
Si on n'a pas d'air neuf,
les limites
on a des
purificateurs, c'est un peu ça.
De confort.
C'est
voilà.
Ça, c'est ça.
Et on a d'autres réglementations en Europe, comme les réglementations scandinaves, qui, elles, ont axé leur débit de ventilation sur les aspects confort. Donc sur les PPM, par exemple, qui sont un bon indicateur d'odeur et de qualité du taux de renouvellement d'air dans les pièces.
Confinement en général.
Et de confinement en général.
De marquage, de l'usage et de l'impact de l'être humain dans les bâtiments dans lesquels il se trouve. Et si ces PPM, qui sont les CO2, qui vont croître, ça veut dire que les autres polluants aussi
potentiellement
vont croître.
Les autres polluants liés à l'activité humaine.
C'est ça. Donc l'air neuf va aider à diluer tout ça.
Voilà. Et donc l'idée de ces... Le CO2 en lui-même n'est pas un polluant dangereux pour la santé. Hein. Avant qu'on meure de trop de CO2 dans une pièce, il va quand même falloir qu'il y en ait vraiment beaucoup. Donc le CO2 en lui-même n'est pas dangereux, par contre est un marqueur souvent d'inconfort dégradé à l'intérieur des bâtiments. Et donc le problème quand on essaye de faire des indicateurs au niveau européen, c'est qu'il faut réussir à concilier toutes ces sensibilités propres à chaque réglementation nationale. Est-ce qu'on fait de la ventilation pour l'humidité? Est-ce qu'on fait de la ventilation pour la santé? Est-ce qu'on fait de la ventilation pour le confort? Comment on pondère tous ces indicateurs-là et finalement, lequel on choisit.
Et quelque part, ça peut aussi avoir une action de se dire, regardez, entre les trois éléments qu'on vient de trouver, il y a peut-être des convergence à créer et de dire vous avez pensé qu'à ça, vous avez pensé qu'à ça et qu'à ça, mais à un moment donné la vérité elle est parmi les trois.
C'est
donc
ça.
Il va falloir amener tout ça. Et justement au premier regard de ces échanges, de ces travaux communs, est-ce que on tend vers ça? Est-ce que c'est assez ouvert et facile finalement ou on a vraiment affaire à des blocages quels qu'ils soient? Il y a du réglementaire d'un côté, il y a un peu de lobbying, on sait quelquefois de l'autre ou ce genre de choses. La tâche est comment?
La tâche est compliquée.
Ah, je m'en doutais. je m'en doutais.
Disons que chaque pays est souvent persuadé que ce qu'il fait, c'est évidemment ce qu'il faut faire.
The best, ouais.
Voilà. Et donc, de réussir à trouver quelque chose qui concilie les exigences de chacun, c'est pas simple.
Mais accepter de se remettre en question pour progresser, voilà. C'est aussi un premier pas vers le progrès.
Mais il y a des gros enjeux financiers derrière, puisque c'est une norme européenne qui va être a priori rendue d'application obligatoire par la prochaine directive européenne. Impose certaines choses, ça
on
veut
sait
dire...
à quelle échéance ?
Alors, la prochaine directive, elle devrait sortir fin 2023.
Mm-hmm.
Et donc, à chaque fois, il y a 2-3 ans de mise en place par les pays membres.
D'accord.
De la directive. La directive ne s'applique pas directement aux citoyens européens. La directive dit aux pays membres qu'ils doivent mettre en place des réglementations qui vont s'appliquer aussi.
Et donc la réglementation calquée sur cette directive et qui ensuite on met en place.
Il y a toujours un décalage,
mais aussi un délai butoir peut-être aussi. Un délai limite, pardon.
Oui, ils ont 2-3 ans pour mettre en place, ça dépend, enfin là en l'occurrence c'est 24 mois ce qui est indiqué dans dans la directive, pour mettre en place la réglementation, mais après la réglementation ne s'applique elle-même que l'année suivante en général. Quand une réglementation paraît, elle ne s'applique pas directement au jour J, ce serait un peu compliqué pour les constructeurs d'appliquer du jour au lendemain une nouvelle réglementation.
Oui, non seulement ce serait compliqué, mais ça cristalliserait beaucoup de choses de dire... ayons raison gardée, mais ne traînons pas. On peut le dire ça comme ça, je pense.
C'est ça.
Alors, les exigences, il y a encore d'autres choses, les exigences et normes d'inspection en Europe.
Oui. Alors, en France, on est assez en avance là-dessus. Alors, on n'est pas les seuls, hein. Mais avec la RE 2020, on oblige maintenant à ce que chaque système de ventilation dans les bâtiments résidentiels neufs soit réceptionné, soit contrôlé à réception pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Ça fait 40 ans qu'on installe des systèmes de ventilation, on a plus de 50% qui sont non conformes, qui ne fournissent pas les débits. Donc c'est quand
on ne dit pas non opérants, hein, non conformes, hein, c'est pas
non
tout conforme, à fait la même
pas
chose.
Non opérants, c'est pas la même chose. Donc ils ne fournissent pas le débit réglementaire dès la réception, avant même qu'il ait eu le temps de vieillir et de s'encrasser. Déjà, de base, il y a plus de 50% qui sont non conformes. Donc partant de ce constat-là, comme au bout de 40 ans on n'y arrive toujours pas, on a décidé dans la RE 2020 d'imposer qu'il y ait une réception et un contrôle pour que le système qui est installé, qui a été payé par le maître d'ouvrage, soit effectivement opérant et fonctionne correctement avec les débits réglementaires. Et donc ça, c'est assez novateur en Europe. Alors, ils le font en Finlande, en Suède, en Belgique. Mm-hmm. On n'est pas les seuls quand même à faire ça. En Belgique, ils ont un protocole de contrôle d'ailleurs très intéressant aussi.
Il y a beaucoup de choses à apprendre avec la Belgique,
oui,
à partager avec eux. Vous y allez de temps en temps, je crois.
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec eux dans une vie précédente et il y a beaucoup de choses à apprendre effectivement de leur manière de procéder. Et donc, cette exigence de contrôle, elle va s'appliquer elle s'applique pour tous les bâtiments dont les permis de construire sont déposés depuis le 1er janvier 2022 et on devrait avoir maintenant des systèmes de ventilation qui fonctionnent mieux.
Ah,
ouais.
On va respirer.
On va.
Merci beaucoup.
Voilà.
Moi, je sais ce que c'est que mal respirer, donc c'est clair qu'on va rechercher ça évidemment à tout prix. On en a parlé un petit peu en filigrane sur le tout, hein, donc la ventilation, on va revenir. On est parti se promener sur le monde, l'Europe, on revient en France. Alors, justement, les nouvelles exigences de la RE 2020, c'est le protocole RE 2020 comme il est appelé, avec différents points. Et je crois savoir que c'est quand même applicable depuis le 1er janvier 2023. Est-ce qu'on a déjà quelques résultats en parallèle de ce que vous allez nous expliquer sur ce qu'est ce protocole ou ces grands points? Et ensuite, on doit avoir déjà quelques résultats
tendances. On n'a pas encore beaucoup de résultats puisque, en fait, le temps que les bâtiments, les permis de construire se déposent et que les bâtiments soient construits et que l'inspection ait effectivement lieu, on est au tout début, finalement, de cette période d'inspection. Donc, on n'a pas encore véritablement de feedback. On a des inspecteurs qui sont qualifiés puisque... Comme on l'a fait pour l'étanchéité à l'air, pour la ventilation, on a établi un protocole très très cadré, donc basé sur le projet Premier Vent, initialement, qui avait été piloté par le CEREMA d'ailleurs. Mmh. On a un protocole très très cadré et on a une qualification des opérateurs.
L'idée... Qui est la numéro 8741.
8741, effectivement. L'idée, c'est de ne surtout pas décrédibiliser cette exigence, d'avoir une exigence qui soit suffisamment cadrée, menée par des inspecteurs qui sont qualifiés, pour être sûr que si deux inspecteurs viennent du jour au lendemain, on est à peu près près les mêmes résultats. Donc on a quelque chose de voilà, très très
pas
cadré.
Pas laisser de place à l'interprétation, mais vraiment
un
au factuel.
Minimum de place.
Sachant, voilà. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a déjà, on approche les 80, je dirais, contrôleurs certifiés. Et
beaucoup sont formés.
Et il y en a plus de 600 qui sont en finalisation, finalement, de leur certification. Donc, on peut rassurer nos amis constructeurs, vous serez contrôlés, et avec des personnes qualifiées, il y en aura suffisamment. Parce que une petite hantise, ça pourrait être de dire, ah, mais j'ai pas de contrôleur, et ma maison, mes clients, ils veulent rentrer dedans demain, et j'ai personne. Voilà, il faut sachez que ça c'est tout est fait pour que ça n'arrive pas.
C'est ça, et on bénéficie quand même de l'expérience étanchéité à l'air où on avait déjà la qualification pour les mesureurs d'étanchéité à l'air, et donc c'est ce même vivier de contrôleurs qui vont faire les contrôles d'étanchéité à l'air et les contrôles de fonctionnement de ventilation.
Donc en gros, ils vont se déplacer une seule fois pour plusieurs choses et également pas rajouter encore des surcoûts
de déplacement.
Auquel cas on connaît nos amis constructeurs et ils sont contraints de beaucoup.
Oui.
Et à un moment donné, il faut aussi que la maison serve et que l'usage du logement soit plein et entier, alors qu'on en construit, on dit toujours qu'on n'en construit pas assez en France et que le logement est une réelle contrainte et un réel problème.
Et on cherche la sobriété, donc un contrôleur qui se déplace une fois et vérifie un maximum de choses, c'est bien. Et de toute façon, voilà, la ventilation, la base, c'est construire étanche pour ventiler correctement. C'est la base. Donc les deux vont vraiment, vraiment ensemble.
Voilà, pour avoir un bon air.
De l'air qui arrive là où il faut et qui ressort là où il faut.
Alors, ces nouvelles exigences de la RE 2020, 1, 2, 3 points qu'on va retrouver dedans
Alors, globalement, il y a trois parties dans le protocole. Il y a la partie pré-inspection, où déjà, on va vérifier qu'on a bien la documentation et que ce qui a été prévu est bien conforme avec les exigences réglementaires.
Et que l'étude soit conforme à l'étude aussi qui est faite, puisque c'est obligatoire.
Ça, toute la partie pré-inspection, la partie pré-étude, on récupère le dossier. Déjà, ça, c'est une partie qui n'est pas si simple que ça, de rassembler ces informations-là.
Oui, c'est trois points obligatoires et 20 points complémentaires.
C'est ça. Donc déjà, voilà, de réussir à récupérer les données sur de la maison individuelle, c'est pas si simple. Ensuite, sur le terrain, une partie inspection visuelle, de vérifier que le groupe de ventilation il est bien accessible, qu'il va pouvoir être entretenu. Vérifier qu'il est allumé, qu'il est branché et allumé déjà.
C'est
voilà, la
base. Là, par contre, on a 20 points obligatoires et 60 points complémentaires.
Donc,
déjà, ce n'est pas de la petite inspection.
C'est de la grosse inspection. Et en fait, tout ça vraiment est basé sur le protocole Premier Vent, où dans le protocole Premier Vent, on avait une idée de vraiment balayer très très large et de traiter tous les points. Et là, dans le protocole réglementaire, on essaye d'être un peu plus resserré pour que ça prenne pas trop de temps aussi. Il faut, là encore, c'est un peu de sobriété. On peut pas passer 3 jours à faire le contrôle sur chaque maison, c'est clair. Et ensuite, on va faire des mesures de débit d'air pour vérifier qu'on a bien les débits ou de pression si on est sur un système hygro-réglable.
Donc que l'air circule bien dans le logement et que cet apport d'air neuf, si important dont on parlait tout à l'heure, soit bien réalisé. Alors également, on parlait tout à l'heure de l'arrêté de 82. Cet arrêté de 82, c'est du marbre. Il y a le 83 qui est arrivé après sur les gros baies, qui ça peut-être pas tout à fait du marbre. Mais par contre, on a une réglementation ESSOC avec un ESSOC 2 qui arrive. Alors encore des mots, on vous rajoute une question sur la dictée. ESSOC, vous trompez pas pour avoir 20. Donc la ESSOC, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et justement, cet ESSOC 2, il y aura des échéances aussi qui approchent. Et ça va servir à quoi, surtout?
Alors, l'objectif de la réglementation ESSOC, qui s'applique pas qu'à la ventilation, qui s'applique à tout, c'est d'aller vers des exigences de résultats plutôt que sur des exigences de moyens. Donc, en ventilation, on a notre réglementation de 82, qui est clairement des exigences de moyens. Il faut mettre en place des débits dans chaque pièce, à atteindre dans la cuisine, min, max, etc., etc. Là, l'idée, c'est de dire, on veut permettre l'innovation. Donc, on veut permettre à des systèmes qui ne respectent pas ces moyens-là de rentrer sur le marché, à condition que, en termes de qualité d'air, ils fournissent des résultats à minima équivalents. Donc, ce qu'on est en train de faire actuellement dans les groupes de travail pilotés par le ministère, par la DHUP au ministère, on est en train déjà de développer des indicateurs. Qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'air derrière? Il faut que le système de ventilation y permette d'avoir une bonne qualité d'air, mais qu'est-ce que c'est?
Et d'y répondre.
Ouais. Et voilà. Donc déjà, le premier temps, c'est de dire qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'air? Qu'est-ce que c'est un système qui permet d'avoir une bonne qualité d'air? Donc on fixe des indicateurs en CO2, en humidité, avec des polluants fictifs aussi pour caractériser le taux de renouvellement d'air, des polluants fictifs émis dans tout le bâtiment, émis uniquement dans la cuisine, pour caractériser un peu les polluants émis par la partie cuisine.
La cuisson, par exemple.
La cuisson, les particules fines qui sont émises, c'est assez énorme. Donc, on est dans cette phase-là actuellement de définir les indicateurs. Ensuite, forcément, il faudra justifier avant la construction du bâtiment que le système va fonctionner. Donc, il va falloir simuler le bâtiment. Donc là, on est aussi dans la période de définir comment on va simuler ça, quelle stratégie d'occupation, le climat, l'orientation du bâtiment, qu'est-ce qu'on prend en compte, etc., etc. Et enfin, il faudra qu'on définisse comment un système pourra se faire certifier, c'est-à-dire par quoi il devra passer, par quel organisme certificateur, qu'est-ce qu'il devra justifier.
À quoi il devra répondre.
À de quoi il devra répondre pour pouvoir être validé et être concrètement installé dans les bâtiments neufs.
D'accord, ça paraît beaucoup beaucoup de choses, mais finalement, ce sera pas si difficile à traiter. Par contre, c'est vrai que c'est comment pour celui qui va vouloir aller vers un élément ESOC et de dire, on a des systèmes innovants qu'on veut positionner. Est-ce qu'il y a peut-être des organismes qui peuvent apporter quelque chose et dire, pour monter un dossier, plutôt le faire de cette manière, parce que on se dit que le champ des possibles, il est hyper vaste là quand même. Donc, à un moment donné, il faut pas s'éparpiller et répondre, et que ceux qui vont lire et décrypter cet ESOC qui est demandé, qui se disent aussi, on va à l'essentiel dans tous les éléments dont on a besoin.
Alors, clairement, une fois que le protocole sera clairement détaillé et que les règles seront définies, il y aura des bureaux d'études très certainement qui vont s'orienter vers l'accompagnement des industriels de la ventilation pour les aider à mettre en place ces dossiers et puis à répondre aux exigences. Actuellement, on n'en est pas là puisqu'on n'a pas encore défini le cahier des charges. Donc, on a à peu près nos indicateurs, ça, on commence à être à peu près fixé.
Les résultats minimaux, c'est ça.
Les résultats minimaux, voilà, en termes de qualité d'air, ça, on arrive à peu près à les fixer. On a à peu près aussi le protocole de simulation. On a encore un an de travail, je pense, pour pouvoir définir quel sera le protocole véritablement de validation des
systèmes. Donc, un an de travail, mais nous, il nous reste une minute. Mais on pourrait rester des heures, c'est comme à chaque fois avec chaque invité, on pourrait rester des heures, évidemment. Un petit mot pour la fin, chère Valérie. On sait qu'on avait un autre point qui était la réglementation en tertiaire avec le projet Sphère. Alors, on parle rapidement du projet Sphère et puis, promis, je vous réinvite et on en parle plus longuement.
On en parle plus longuement, ça marche. Donc, non, le projet Sphère, l'idée, c'est qu'en tertiaire, en France, on a une réglementation qui est vieille, encore plus vieille que l'arrêté de 82, puisque
pour nos auditeurs, le tertiaire, c'est les bureaux, c'est les écoles, voilà. C'est les établissements de santé, etc., etc.,
c'est
les
ça.
Commerces.
Et en particulier sur la problématique des écoles, on a une vraie problématique en France puisqu'on n'a quasiment pas de système de ventilation mécanique dans nos écoles françaises et on a des vrais problèmes de qualité d'air qui vont être mis en avant par la directive de surveillance de la qualité d'air dans les ERP et on veut aider les collectivités, comme je le disais, à trouver des solutions.
Donc parce que l'aération ne suffit pas.
L'aération a plusieurs inconvénients, c'est-à-dire qu'elle pourrait suffire, mais à condition d'engendrer énormément de consommation énergétique et de créer de l'inconfort pour les occupants.
Passer son temps à ouvrir les fenêtres.
Voilà, parce qu'à côté d'une fenêtre ouverte en plein hiver, il faut dire ce qui est, c'est pas très confortable quand même pour des enfants qui sont assis dans la classe. Donc, on veut vraiment mettre en place ce projet Sphère, là, avec l'idée d'assister les collectivités pour les aider à améliorer la qualité d'air. Donc, on est actuellement en train de monter le projet, on recherche des financements pour développer les outils dont on a besoin pour pouvoir massifier vraiment et toucher 200 collectivités par an minimum avec le CRMA.
Ouais, c'est une grosse part là quand même.
L'idée, c'est de toucher un maximum de petites collectivités pour les aider vraiment à améliorer la qualité d'air dans leurs écoles.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a balayé beaucoup de champs, on a fait le tour du monde avec vous, Valérie, merci beaucoup. Un petit clin d'œil à votre collègue Andrés Ligtvac qui était sur le plateau il y a quelques temps, puisqu'il y a aussi des MOOC sur la qualité de l'air qui ont été mis en place sur le résidentiel et sur le tertiaire. Donc encore beaucoup de choses de la part de nos amis du CEREMA. On aura le plaisir de les retrouver. Les émissions élémentaires, vous les retrouvez tous les 15 jours à 9h du matin les jeudis en direct. Et ou sinon, après, vous avez le podcast sur radio-imo.fr et vous allez les piquer. Et il faut savoir que c'est offert. Vous téléchargez la vidéo et vous pouvez la revoir comme vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. C'est aussi du confort. Merci beaucoup. Merci Valérie. Au plaisir de se retrouver. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, l'été approche, vous allez être encore plus dehors que d'habitude. Prenez soin de vous parce que les indices UV peuvent être assez importants et violents. Prenez soin des enfants, mais surtout, respirez en grand, allez marcher, faites du sport, de l'activité et pensez-y, c'est élémentaire.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.